Ah, pain chaud de l'air en forme aujourd'hui. Vous êtes donc bien chanceux, vous autres.
Je le suis.
Ouais, hier soir, on s'est parlé. Elle a dit, là, je veux qu'on close l'émission tout de suite parce que je veux passer à autre chose. Je veux faire des mamours avec Tichum.
C'est exactement ce que j'ai dit, Anne. Oui,
puis,
oui.
Comment ça a été?
Les mamours ne se sont pas produits. On était deux êtres humains complètement vidés hier soir.
Fait
que, on s'est collés, on s'est rassurés que demain irait mieux. Et aujourd'hui, ça va bien.
Bon!
Non, mais hier matin, je te l'avais compté. Mais j'avais
pensais
que
tu me dire que tu avais eu le plus beau 30 secondes de toute ta vie.
Je mettrai jamais ça sur mon chum. Il est plus doué que ça quand même.
Il y a de la graine de champion.
Mais je donnerai pas trop de détails parce qu'il y a des gens qui connaissent l'homme.
Le monde, il me mère dessus pour de vrai.
Non, il n'y a pas de monde qui me mère tant que ça. Je dirais qu'au contraire, souvent, c'est parce que pour ceux qui n'ont aucune idée, c'est que mon chum fait le même job que nous autres du côté de Trois-Rivières. Puis non, souvent, ça va être des beaux mots. Là, on l'écoute après, on t'écoute. Les gens sont quand même... Il n'y a pas de questions déplacées, mettons. Là,
OK. Bon, ben j'arrive dans le dossier.
Oui, mais c'est ça. Tu sers à ça, dans le fond. Hein?
Exact. Je suis un peu comme ça. Comme je suis là pour rendre service à ben du monde, savez-vous quoi? J'ai longtemps ri des gars en trottinette, mais je trouve que les trottinettes, c'est une belle alternative pour les jeunes de plus de 14 ans, puis les adultes qui veulent se déplacer, les adolescents, les adultes qui veulent se déplacer, puis ça coûte pas cher, ça pollue pas bien, puis on va se le dire, si vous respectez toutes les règles, il devrait pas y avoir de problème. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous faire sauver de l'argent, les amis. T'as-tu acheté une trottinette, toi?
Non, mais je m'en suis servi beaucoup en voyage. J'adore la trottinette électrique.
Ouais. Moi, je m'étais fait une promesse cet été, et j'ai failli à cette promesse-là, puisque je me l'ai pas achetée. Il faut que j'achète des roues sur mon char, des pneus, en fait, sur mon
là,
Wrangler.
Les priorités,
Ouais. Mais j'ai longtemps hésité, pareil. Je voulais acheter un gyro-roue.
C'est quoi ça? Ah, c'est-tu l'affaire à une roue, là,
c'est
une roue, là?
C'est une roue avec un moteur électrique.
Yann, tu te fais mal.
Tu peux atteindre des vitesses vertigineuses avec ça. Je pense qu'il y en a un à Québec qui est capable d'atteindre du 100, 110 km/h. Il met son casque. On dirait. C'est comme si c'était Batman.
Oui, mais fais pas ça, on va te perdre.
Fait que là, moi, je voulais être le Batman en gougoune
cet
été. Puis finalement, je me suis dit, ah, OK, il faudrait que j'achète des pneus avant. C'est ce que la mère de mes enfants me dit.
Priorité.
Je sais pas si elle pensait à moi ou à ses enfants, la sécurité.
Je pense que c'est plus ses enfants que toi sans te...
Mais bref, j'ai failli. Mais le gyro-roue, peut-être l'an prochain. Le seul problème, c'est qu'il va falloir que je mette un casque.
Oui.
Moi, je fais pas partie de cette génération-là. En moto, j'ai toujours un casque, sauf aux États-Unis où j'ai le droit de pas mettre de casque, OK?
T'es-tu sérieux?
Ouais.
T'es vraiment ce gars-là?
La liberté, c'est ça.
Ben, non, mais le pire, c'est que je comprends.
Tu sais, Top Gun, le film, là.
Ouais.
Quand Tom Cruise, il va juste sur sa base, là, où il y a des avions de chasse qui partent, là.
Ouais.
Il est avec sa moto, avec ses lunettes fumées, ses cheveux par en arrière, avec sa moto, c'est un racer de mémoire. Les plus connaisseurs pourront me le dire au 418-971-1021. Tu sais, en même temps que le jet commence à décoller, lui, il met le gaz au fond, il est avec ses lunettes. La liberté, c'est ça, Audrey.
Oui, ben écoute, je suis d'accord avec toi, ça n'a pas l'air, mais je suis d'accord avec toi parce que je fais de la moto, du 4 roues, du 3 roues, tout ce que vous pouvez pas imaginer. Puis quand je suis dans mon coin de pays, c'est à Côte-Nord, mettons, où c'est sécuritaire, là, puis qu'on fait en masse de raids dans le bois, puis sur le bord des plages, puis j'ai pas le choix de dire que je l'enlève, mon casque. Sauf que pas sur les routes.
Ouais. Non, non, c'est ça. Mais ouais. Je le sais. Je le sais.
Je le sais que tu le sais.
Mais c'est le fun en maudit.
Je le sais aussi que sûrement que tu voudrais que tes gars le mettent leur casque.
Oui, mes gars, oui, ils sont obligés.
Ouais, c'est ça.
Mais à Death Valley, aux États-Unis, quand t'es dans le désert... Quand tu sais qu'il n'y a pas de police, écouter du Johnny Cash en moto, avec des lunettes fumées, pas de casque. Sérieux, je vais le revivre un jour. Et tu sais quoi? Avec mes gars, probablement, lorsqu'ils auront 25-30 ans, on va avoir nos Harley Davidson puis on va retourner sur la route 66.
L'image est belle.
Ah, sérieusement, je rêve de faire ça. Mais bref, arrête de me faire détourner de mon objectif principal, c'est-à-dire de faire sauver de l'argent aux auditeurs qui se promènent en trottinette et qui doivent être extrêmement célibataires. Il y a une opération policière depuis hier.
Oui.
Et ils vont y en avoir une aujourd'hui, demain et peut-être même après-demain. Les policiers poursuivent les dangereux criminels à trottinette.
Oui.
qui pourraient rouler à plus de 25 km/h. OK? Sachez que c'est interdit si votre trottinette roule à plus de 25 km/h. L'an passé, on a donné 26 constats d'infraction en un an. Pour tous ceux qui sont célibataires, en trottinette.
Il y en aura de plus en plus, par exemple.
Hier, en une heure, on en a donné combien?
Mon Dieu, je vais dire 20?
10.
OK.
10 en une heure. Puis je pense qu'on a achalé un peu les gens du à vélo, là.
Oui, ben, en même temps, c'est plate à dire, mais ce genre d'opération-là avait pas le choix d'arriver à un moment donné parce que là, sur le trottoir, on sait plus c'est quoi les règles. Tu te ramasses avec des à vélo, tu te ramasses avec des trottinettes, avec des monoroues, avec des piétons. Giroroues, pardon.
Giroroues de Batman.
Pardon. Puis, fait que ça fait que ça peut devenir dangereux à un certain point, même si on veut pas se l'avouer, c'est la réalité pareil, là.
Donc, ça va durer 3 heures, cette opération-là, aujourd'hui. Fait que vous allez 3 heures. Vous allez encore, quoi, 2 heures pour vous trouver un casque si vous n'en avez pas. Ça va être à différentes intersections, notamment dans le secteur Hauteville et de la Basse-Ville de Québec, secteur du Vieux-Port et le secteur de Sainte-Foy. Puis les amendes sont assez salées, là. Ça pourrait aller jusqu'à 200 $. C'est quoi les règlements, selon toi, pour une trottinette électrique? Je t'en ai donné un, il faut que ça roule à moins...
De 25 km/h.
À plus de 25... Il faut pas que ça roule à plus de 25 km/h. Donc, faut que ça roule à moins de 25 km/h.
Voilà. Je sais que tu peux pas être sur les trottoirs parce que j'étais sûre que tu pouvais, mais tu peux pas parce que c'est dangereux. Fait que ça, je pense que ça fait partie des règles.
Peut-être, oui.
Ben là, un casque, assurément, là.
Un casque, c'est obligatoire. Et ça, ouais. Je ne savais pas ça.
Mais en même temps, c'est logique, il y a un petit moteur, il y a un petit... Ça avance, cette affaire-là. C'est pas comme si t'as roulé à pied, là.
C'est 25 km.
Ben oui, mais Yann, est-ce que t'en as déjà fait de la trottinette électrique, sans blague? T'es-tu déjà embarqué là-dessus?
Ouais.
Oui, pour vrai de vrai?
Ça fait juste mal.
Épais. C'est surprenant. Honnêtement, quand tu mets la manette trop rapidement avec ton poignet, là, ça avance relativement vite, 25 km/h.
Sachez qu'à Val-Bella, il y en a un que ça grimpe à plus de 100 km/h.
Arrête!
D'après moi, lui, il reste pas longtemps à vivre parce que avec la grosseur des roues, avec l'état des routes qu'on peut avoir à Québec et au Québec, en fait, d'après moi, à un moment donné, il va pogner un peu de grenaille, un peu de sable, j'y souhaite pas. Mais à 100 km/h, je trouve qu'il va peut-être un peu trop vite. Mais que voulez-vous, c'est sa vie. Donc, les règlements, tu les as dit. Est-ce que tu as le droit de mettre des écouteurs pendant que tu es sur ta trottinette électrique?
Ah ben non, tu n'as pas le droit en vélo et tu n'as pas le droit en char, fait que tu n'as pas le droit en trottinette.
En char, moi, j'ai le droit d'avoir un écouteur à l'oreille.
Juste un, pas deux. Ouais. Mais pas en trottinette, je ne suis pas mal certaine.
En trottinette, tu n'aurais pas le droit d'avoir un écouteur à l'oreille. Tu n'as pas le droit de parler au cellulaire avec un écouteur à l'oreille.
Ben, mon guess, c'est non.
OK. Moi, mon guess, c'est oui. Sauf que les policiers qui ont été interviewés hier ont dit la même chose que toi. Mais ça se défend en cour municipale.
Mais là, mettons qu'on joue pas avec le feu, là.
Ben, tu joues avec le feu. T'as une oreille disponible pour entendre ce qui se passe autour, puis l'autre, c'est pour parler au cellulaire parce que tu veux pas parler avec ton cellulaire à la main sur la trottinette.
Oui, mais est-ce que t'as essayé de tenir une trottinette électrique à une main, toi?
Mais c'est ce que je te dis. Fait que ton écouteur pour ton cellulaire à l'oreille est tout à fait logique. Ouais. Je pense que les policiers se sont trompés.
Bon.
Okay. Hey, si tout le monde peut se tromper, les policiers peuvent-tu se tromper aussi?
Amplement, mais c'est parce que je pense qu'on essaie d'être plus sécuritaire avec cette. J'allais appeler ça cette nouvelle technologie-là, ouais. Là, avec ces nouvelles machines-là, fait que les règles sont plus serrées.
Oui, mais en cour municipale, ça se défend.
Probablement,
parce
tout
que
se
tu
défend.
Tu voulais parler au cellulaire, ton cellulaire est dans ta poche, tu parles avec ton cellulaire avec une oreille à trottinette, tu es avec ton casque et tout ça, il n'y a pas un policier qui va t'achaler. Mais selon les policiers. Qui ont été interviewés hier par le journaliste du Soleil.
Tu peux pas.
Ils ont pas le droit d'avoir un écouteur. Moi, je challengerais ça parce que je suis pas mal persuadé que les policiers se trompent.
Oui, mais Yann, mettons que t'as pas le goût d'aller dépenser du temps et de l'argent en cours, là. Ah! Peux-tu juste prendre pour acquis que la réponse, c'est non, tu le fais pas?
Tu sais quoi? Je suis capable d'aller jusqu'au bout
dans
ben des affaires.
Oui, j'en doute pas, mais mettons ceux qui sont allés... Une liaison dont pas avec le
juste
feu.
D'entendre le juge me dire... Bon, c'est logique ce que vous me dites, là, que vous prenez pas votre cellulaire en trottinette puis que vous aviez besoin d'une oreillette pour parler au cellulaire. Juste de l'entendre, je trouve que ça vaut le 200$ que je vais prendre.
Ouais. Moi, je choisis mes combats. Ah, mais je respecte...
Tous les combats sont valides.
Je respecte ce que tu dis. En passant, tout ce qu'on vous dit là, c'est pas juste pour les trottinettes, les petites mobilettes là, avec un petit toit, toutes ces affaires-là, ça rentre là-dedans. Là.
Les triporteurs?
Oui.
T'as pas le droit d'avoir un écouteur à l'oreille en triporteur.
Non, mais je veux dire, l'opération qu'il y a en ce moment, là...
Hey, moi, je pense aux gars là, qui nous écoutent, puis aux filles qui nous écoutent, qui rentrent à Nicolette Bateau, là, puis ils se disent, si vous vraiment voulez être dans la police pour courir après un triporteur avec mon véhicule patrouille parce qu'il y a une oreillette à l'oreille, là...
Mais là, il faut dire que les policiers sont quand même compréhensifs. Là, je veux dire, demain matin, mettons, j'ai une trottinette électrique, puis je suis sur le trottoir, puis je me fais arrêter, je peux dire, hey, je m'excuse, je le savais vraiment pas, puis j'imagine que le gros bon sens va l'emporter, là, ça sert à ça. aussi, ces opérations-là.
Il y en a un qui me fait triper dans le secteur Chauveau avec son triporteur. Là. Il s'est fait comme une cabine sur son triporteur, puis il s'est modifié son triporteur comme si c'était un gros char, là, de mettons, à Los Angeles. Là.
Arrête.
De gang de rue avec la grosse musique. Tu sais, sérieux, il passe, là, je suis dans mon char, OK? Dans ma voiture.
J'aime le monde, là.
Je suis dans ma voiture avec mon Wrangler. Tu sais, le Wrangler, là, c'est très, très bruyant, là. Puis lui, il passe à côté de moi, là, il enterre tout le monde. Tu sais, tellement que je te dirais que... Comment ils s'appellent, là, les scooters? Tu sais, scooters modifiés, là.
Ah, le bruit tannant.
Mais tu l'entends pas.
Parce que
t'entends juste la musique.
Hey, c'est badass, là.
C'est badass en sacrifice. Je sais pas s'il y a vraiment besoin du triporteur, mais s'il y a vraiment besoin du triporteur, puis s'est organisé pour bien se promener puis se faire entendre, je trouve ça formidable. Je le salue, soit dit en passant.
Il y a un auditeur qui nous dit « À vélo, avec un ou deux écouteurs, ça peut valoir une amende de 80 à 100 $
Avec deux écouteurs, très certainement. Un écouteur challenger.
Yann vous dit « Challenger les policiers ». Allez-y, la gang.
Challenger pas les policiers. C'est que si vous faites prendre... Allez à la cour municipale, puis dites, écoutez, moi, mon droit, c'est de pouvoir parler au cellulaire. J'ai qu'un écouteur à l'oreille, je ne l'ai pas sur les deux. Les véhicules routiers ont le droit d'avoir un écouteur à l'oreille, c'est la même chose. Puis je pense que
sais-tu où la nuance pour moi? Puis peut-être que je suis dans le champ, là, mais il y a une sacrée différence entre dans ton char avec un habitacle.
Oui, non, non.
Un habitacle plutôt. Tandis que quand t'es sur un vélo, là, que ce soit un vélo, le tien, ou une trottinette ou un quadriporteur, là, t'es plus en danger. Je veux dire, t'es plus exposé
moi, ce qui me fait
dans ton
capoter
char.
Capoter avec toi, là, c'est que ici, avec tes écouteurs, t'es un danger public avec ta trottinette si t'as juste un écouteur. Mais quand toi, t'es chez vous dans ton secteur, dans le bois, avec podcast, tout va bien.
J'ai pas dit que c'était dans mon secteur. J'ai dit que c'était sur la Côte-Nord, dans mon coin de pays, très loin d'ici, à 8 heures de route, sur une plage.
Fait que les règles puis les endroits, ça varie dans ta tête.
Mais il y a une méchante différence entre le boulevard Le Bourgneuf et une plage de 11 km à Côte-Nord, Yann, là. Voyons.
Non, moi, les règles doivent être appliquées partout ou pas partout.
Seigneur!
Est-ce que t'as le droit d'être chaud raide sur ta trottinette?
Mais non, voyons! La réponse, c'est non. Tu peux le tester si tu veux, là. Sans pas que ça se conteste d'une façon ou d'une autre.
Celle-là, je le testerai pas.
Tu peux pas.
Je pense qu'il y a un dossier criminel qui vient avec ça.
Oui, mais c'est pas...
La honte de perdre ton permis pendant un an.
Tu sais qu'il y a même une règle pour les policiers, puis ça, c'est vraiment juste pour avoir un droit de regard s'il y a quelqu'un qui dérange les voies publiques en boisson.
Ouais.
Mais normalement, t'as pas le droit de marcher non plus chaud raide dans la rue.
Et je me suis déjà fait coller pour ça.
Arrête!
J'avais 18 ou 19 ans, je revenais de la Haute-Ville. Je pense que ça fait 20 fois que je
compte ça. Mais tu devais être dérangeant.
Maintenant, il va falloir qu'ils me donnent des vacances pour que je revive d'autres choses. Mais je descendais de la Basse-Ville, puis oui, j'étais au 45, j'ai pas pris mon char. J'avais laissé ma voiture sur Saint-Jean à l'époque où on pouvait se stationner. Là. Et je me suis dit, c'est impossible, je prenne mon char. Là. Fait que je descendais au 45. Je restais comme à peu près à 20 minutes ce soir-là. Ça a pris comme une heure et demie.
J'en doute
mais
pas.
Je restais à 20 minutes à peu près à pied. Puis les policiers sont venus m'intercepter en me demandant où j'allais. Je dis, ben là, je m'en vais chez nous. Ils disent, vous savez que vous n'avez pas le droit d'être sous sur la voie publique. Je dis, oui, mais je sais que j'ai pas le droit d'être sous dans mon char non plus. Vous auriez pu prendre un taxi. Oui, mais il est 3h30 du matin, il n'y en avait pas de taxi sur Saint-Jean. Personne ne me répondait. Puis, ils m'ont donné une étiquette. Hein? Je pense qu'à l'époque, c'était entre 75 et 100 $
Hé, hey, mais il était pas smart, là, parce qu'il y a le gros bon sens, normalement, qui embarque en ligne de compte.
Je te dirais que 100% des policiers, normalement, diraient, regarde, il a fait un bon choix, mais des fois, ça dépend de la soirée que tu as eue aussi. Tu sais, quand tu te fais tout le temps achaler quand tu es policier, tu sais, les prisons sont remplies de gens qui ont rien fait, là.
Ouais.
C'est la même affaire quand ils interceptent des gens qui sont sur la rue et qui
contreviennent au règlement.
Ils deviennent peut-être intolérants. Ouais. Fait que ce coup-là, je l'avais eu entre 75 et 100 $ Je pense que c'était ivresse sur la voie publique. Mais je restais sur le trottoir, là. Mais j'étais pas 180 degrés dans les airs, là.
Tu sais que je me suis
j'étais
fait
90 degrés,
reconduire chez nous par des policiers au cégep en sortant du bar à 3 heures du matin. Moi, au cégep, j'organisais tout, OK?
Ils t'ont raccompagné chez vous?
J'ai demandé. Je disais, hey, pour tout ce que je fais pour Jonquière et sa ville, pour le programme d'ATM, pouvez-vous me ramasser puis aller me porter à la maison avec mon ami? Ils m'ont dit oui. Fait que j'ai eu un lift jusque chez nous. J'ai été accompagné, je n'ai pas dérangé les voies publiques à pied. Des fois, ils sont smart, les policiers.
Ils ont-ils essayé de t'en rejoindre après?
Non. Mais non, ils ont juste été vraiment frais. Mais je pense que quand t'es poli avec eux, ils sont polis avec toi en retour. Tu sais, l'intolérance, ça vient pas de nulle part. Hein. T'en as des cabochons qui défient, là.
Mais de mémoire, même si j'étais au 45, je répondais, tu sais, en disant, ben oui, j'ai pas pris ma voiture, tout ça. Fait que bref, c'était entre 75 et 100 $
Quand même.
Donc, t'as raison, on ne peut pas être chaud raide sur une trottinette. Donc, je répète, là, casque obligatoire sur la trottinette parce qu'il y a une opération qui débute dans 1h45. Vous n'avez pas le droit d'avoir d'écouteurs sur les deux oreilles. Mm-hmm. Et même sur une oreille, vous n'avez pas le droit. Puis votre véhicule doit rouler en bas de 25 km/h. Sinon, c'est un ticket automatique. Puis là, pour ce qui est de la puissance, je ne suis pas un spécialiste, là, mais on me dit 500 watts. Vous pouvez pas avoir plus que 500 watts de puissance pour vous promener à trottinette. Donc,
ben
voilà.
Là, si tu ne modifies pas, normalement, ça se passe bien. Y a-tu bien du monde qui ont ça, des trottinettes électriques 88-971-101? Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas tant que ça encore en Ville de Québec.
Il y en a en sacrifice.
Moi, dans mon je croise tout le temps le même monde.
Moi, dans mon entourage proche, là, je pense que c'est à peu près 60 % des gens qui se sont dotés soit d'un vélo électrique ou soit d'une trottinette électrique. J'ai personne qui a des gyro-roues. J'en ai un. Je sais pas c'est quoi sa moto. C'est une moto chinoise dans laquelle il a été caché des ils ont caché des pédales. Okay. Fait que les pédales, dans le fond, tu les prends puis tu les rentres à l'intérieur de la moto. Tu peux aller sur la piste cyclable puis lui peut rouler jusqu'à 100 km/h facile avec cette moto-là. Là. C'est probablement en raison de gars comme la personne qui est proche de moi là, qui se sont dotés d'appareils électriques comme ça qui vont à 100 km/h que les policiers ont dû peut-être durcir un peu le ton.
Mais c'est important à mener. On s'adapte aussi. Là, je veux dire, il y a des nouvelles règles, c'est une nouvelle réalité. Le monde, c'est leur façon de se déplacer. Bien, regarde, il y a des affaires qui viennent avec ça. Fait que l'opération est jusqu'à quand? Ça dure, c'est depuis hier, aujourd'hui et demain?
Oui, aujourd'hui, là, c'est entre midi et 15 heures. Donc, vous allez avoir des policiers qui seront très, très, très à l'affût. Okidou! Météo, Audrey, puis circulation actuellement sur Québec. C'est frais. C'est 20 degrés. Ça va se réchauffer au courant des prochaines minutes, prochaines heures. Ensoleillé pour aujourd'hui et cet après-midi. Peut-être risque d'orage en fin d'après-midi, là, selon Environnement Canada. Maximum de 27. Avec l'humidex, ça pourrait être une température ressentie de 33. Ce soir, partiellement nuageux. 40 % de probabilité d'averse. En fin de soirée, minimum de 15 degrés. Demain, jeudi, alternance de soleil et nuages avec risque d'orage en après-midi, maximum de 28. Et pour terminer la semaine de travail, ensoleillé, maximum de 29.
La 740, Robert Bourassa, dans les deux directions, entre Laurier et Chemin Sainte-Foy, il y a un petit ralentissement au moment où on se passe. Sinon, ça roule très bien sur le réseau routier, quoi que ce soit. 971-1021, le Twitch est là aussi en passant. Twitch.tv, BLVD, Barrenso FM. Bienvenue dans l'Open Mic.
Oui, il y a des gageurs qui se prennent à savoir quand est-ce que je vais rentrer en studio.
Si t'as une dernière minute.
Un peu! C'est l'histoire de ma vie!
Quand je pense à ma vie.
On a gagné 1 degré en quelques minutes, donc ça continue de se réchauffer. C'est 20 degrés sur Québec, 10h27, en espérant que vous passez un bon début de journée. Vous avez des choses à nous dire à moi ou Mme Pinchot, ou peut-être les deux. Pour les bons commentaires, c'est Yannick. Les mauvais, c'est Audrey. 418-971-1021. 418-971-1021. Il se passe quelque chose sur la route. C'est le même chemin par texto. On vous lit toute la gang. Audrey!
Les surdoses sont en augmentation. C'est ce qu'on peut lire dans les derniers jours. C'est pas particulièrement surprenant non plus. T'sais, on lisait que le nombre de signalements de surdoses mortelles a presque doublé en un an dans la capitale nationale.
Capitale nationale, et je crois aussi que c'est la même chose pour ce qui est à la grandeur du Canada. Oh, même
partout,
l'Amérique,
là.
Je pense qu'on peut, dire que c'est un fléau qui est épouvantable.
100%. Depuis le début de l'année, ici, c'est 32 signalements de décès potentiels par surdose depuis le début de l'année dans la capitale nationale. Puis je sais pas comment s'est passé votre été de votre côté. Moi, j'en ai fait des festivals.
Ben, j'ai pas fait d'overdose.
Non, ça s'est bien passé, toi, la consommation.
Tout a bien été.
Pas de casse avec sa moto.
Exact.
Non, mais j'étais allée autant du côté de la Mauricie pour des festivals qu'évidemment, dans la grande région, on est amplement gâtés. Puis j'en ai vu du monde sortir des sites super intoxiqués, puis pas juste à l'alcool. Tu sais, des gens qui savaient pas nécessairement ce qu'ils consommaient. Ça paraissait des festivals où il y avait, bon, peut-être une crowd un peu plus jeune aussi, peut-être moins éduquée à ce niveau-là.
Mais au-delà de ça, j'étais au show de Motley Crue, là, avec la gang de Boulevard. Puis moi, j'étais à côté, j'avais les billets ici, fait que j'étais à côté comme à un bel endroit. Puis en arrière de moi, c'était un passage pour les gens du Festival d'été de Québec, pour les urgences. Ouais. Puis il y avait des civières qui passaient à toutes les 15 minutes. Là.
Sans arrêt.
Attention, civières. Les gens n'ont même pas vu le spectacle de Motley Crue.
Ah, non,
ils ont
non.
vu la première partie, du moins.
Mais il y en a qui consomment avant le show en se disant que ça va être le fun, mais finalement, ça ne se passe pas si bien que ça. Puis la toxicomanie est plus présente que jamais. Les efforts sont là pour que ça aille mieux. Puis en fin de semaine, j'étais à Cigale, parce que j'aime ça faire le tour de ce qu'on propose dans la région en frais de festival. Puis j'ai croisé la clinique mobile SABSA, qui est une coopérative qui offre offre, en fait, plus que la clinique mobile. Au final, là, il y a aussi le site de consommation supervisée, l'Interzone. Ils ont une clinique de proximité. Puis je me suis mis à jaser avec les gens sur place, à savoir comment ça fonctionnait. Est-ce qu'il y avait beaucoup de tests qui avaient été faits? Parce que le but avec la clinique mobile, entre autres, c'est de tester les drogues que les gens réussissent à amener sur le site, t'sais. Mais les gens sont encore gênés par rapport à ça, puis on connaît pas trop le principe. Donc, qui de mieux pour nous en parler que la DG de SAPSA pour savoir c'est quoi les offres, comment ça fonctionne, comment on essaie d'aider la toxicomanie dans la région aussi?
Amélie Bédard, travailleuse sociale de formation, maintenant directrice générale de la coopérative SAPSA, content de vous recevoir en studio. Merci d'être là, soit dit en passant. Vous n'avez pas idée à quel point vous êtes important pour la capitale nationale.
Merci beaucoup, ça me fait grand plaisir.
Ça fait combien de temps que la clinique SAPSA, ça existe? Puis l'idée est venue comment?
Ça a commencé en 2011, la clinique SAPSA. Écoute, c'est venu d'une gang de personnes motivées, engagées, qui avaient vu un peu ce qui se faisait dans le réseau, puis qui avaient vu aussi ce qui se faisait dans le milieu communautaire, puis qui avaient le goût de prendre un peu le meilleur des deux mondes, puis de faire un modèle différent, je te dirais, pour venir en aide aux gens qui ne trouvaient pas leur place dans le système, les aider un petit peu à naviguer dans tout ça. Les plus désaffiliés.
Oui. Les résidents de l'endroit, parce que vous êtes dans le secteur La Couronne, c'est ça?
On est dans Basseville, oui.
Dans Saint-Roch. Les résidents de l'endroit, ils ont-tu eu peur quand vous avez commencé à vous établir là? Ils ont-tu dit, bien là, ça va amener des gens un peu plus intoxiqués dans notre secteur?
Pas au début.
Non.
Ça a commencé tout tranquillement aussi. On avait des petits locaux.
Oui.
Sur la rue des Aublats, là, en 2011, c'était vrai, ça a vraiment commencé tout petit. De fil en aiguille, on s'est fait connaître. C'est sûr que l'implantation de l'Interzone, ça a été d'autres choses,
ouais.
Par contre, je te dirais.
C'est quoi la mission comme coopérative de SAPSA pour les gens qui ne savent pas du tout ce que c'est, mettons, j'ai goût qu'on établisse, parce que j'en ai parlé un peu d'entrée de jeu, mais vous avez comme trois piliers principaux.
On a comme trois gros volets de services. C'est sûr que le cœur de SAPSA, c'est la clinique de proximité. Là. Ça, pourquoi les gens nous connaissent, puis la porte d'entrée, c'est vraiment ça. C'est une clinique de super infirmières qu'on appelle. Pour les gens qui ont pas de médecin de famille ou qui ont difficilement accès à leur médecin de famille, ce qui peut être le cas de beaucoup, beaucoup de gens. Évidemment, on priorise les gens qui ont des problèmes de santé mentale, toxico, VIH, hépatite C. On a une grosse majeure en hépatite C. L'hépatite C, c'est une infection qui est beaucoup contractée par les gens qui consomment par injection. En fait, c'est comme ça que la coopérative est née, parce qu'on se rendait compte que ces gens-là qui étaient infectés, il y avait un traitement qui existait, mais il n'y avait pas nécessairement accès de par le fait qu'ils étaient plus désorganisés, ils n'arrivaient pas à aller au rendez-vous avec un gastro-entérologue pour dire quelque chose dans le système, ils n'avaient pas leur carte de RAMQ.
Mm-hmm.
Fait que nous, on s'est dit, il y a des façons simples de leur rendre le traitement accessible puis de les guérir, finalement.
Okay. Mais vous les prenez en charge?
On les prend en charge. Ouais.
Vous manquez pas de monde, tu sais, c'est niaiseux comme question, mais on entend tellement parler que notre système qui est censé tout gérer, genre pas grand-chose finalement. Puis comme coopérative, vous arrivez à prendre qui a besoin d'aide finalement?
On fait des petits miracles, je te dirais, avec pas beaucoup de ressources humaines. T'sais, c'est trois super infirmières, c'est quelques infirmières cliniciennes, beaucoup d'intervenants psychosociaux.
Super infirmière, c'est le step entre l'infirmière clinicienne et le médecin.
Exactement. Okay.
C'est une personne qui peut prescrire?
Oui, c'est une personne qui peut prescrire,
ouais,
des examens diagnostiques, qui peut prescrire des médicaments, qui peut faire des suivis, même des suivis de grossesse. Ils ont un champ de pratique assez large, les super infirmières.
Vous avez l'Interzone, qui est le centre de consommation supervisée. On a parlé de l'accueil des services tantôt. Ça en est où en ce moment? Parce que là, ce qu'on lisait dans les derniers jours, c'est qu'il y avait saturation de l'Interzone aussi, là.
Bien, écoute, l'Interzone, ça a ouvert en 2021. Première année, 8500 visites. L'an dernier, 25 000 visites.
Oh boy, hein?
Ouais, ça a comme explosé, là. T'sais, on avait...
C'est une bonne nouvelle, en
ben,
même
c'est
temps,
une là. Bonne nouvelle en soi, dans le sens où les gens se sentent bien dans le service, l'utilisent, le connaissent, sauf qu'on est comme à pleine capacité, là. Mm. Le site est tout petit, il y a juste 5 cubicules de consommation, parce qu'ils peuvent à la fois inhaler et s'injecter. Les heures d'ouverture sont de 9 à 1 heure du matin. En soirée, ça roule.
Ouais.
Il faut gérer l'achalandage.
Vous dites quoi aux gens qui, je vais dire, qui accusent le centre de consommation d'être à l'origine des hausses de surdoses mortelles? Parce que c'est quelque chose qu'on entend, il faut le dire, là.
Je leur dirais que c'est un amalgame très dangereux à faire. L'un ne cause pas l'autre. Au contraire, nous, on est là pour les prévenir. Si on n'était pas là, il y en aurait probablement plus. C'est un phénomène
parce
qui existe.
Parce que de un, tu sais, les utilisateurs, on veut qu'ils soient pris, en charge, puis que vous puissiez superviser et tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que les seringues ne sortent pas de l'établissement. Parce que je veux pas que ça se retrouve dans ma cour d'école, je veux pas que ça se retrouve dans les parcs, je veux pas que ça se retrouve dans mon stationnement ou encore sur mon petit terrain derrière. Là. Donc, il y a quelque chose, oui, pour les utilisateurs, mais aussi pour les résidents de l'endroit, vous assurer qu'il y a ce qui est fait à l'intérieur, les produits qui peuvent sortir, ils sortent pas. Puis en même temps, bien, vous apprenez à connaître votre clientèle aussi, si ces gens-là ont besoin d'aide.
Bien, on les met en lien avec les services. Ouais. On crée un lien de confiance parce que souvent, c'est des gens qui ont été malmenés par le système, stigmatisés, qui sont très, très, très loin des soins.
Quand ils consomment, le moment entre la consommation puis la sortie de l'établissement et tout ça, ça se passe comment? Hein? Est-ce que ces gens-là, excusez-moi l'expression, je devais l'entendre souvent, ils font-tu leur buzz à l'intérieur de l'établissement?
Ils peuvent. Okay. Il y a un espace pour ça. S'ils désirent décompresser, si on trouve qu'ils ont des comportements d'agitation ou à risque, mettons, de détresse respiratoire ou qu'ils s'endorment ou qu'on n'est pas sûr, évidemment qu'on les garde à l'intérieur pour garder un œil dessus. Il y a du personnel infirmier qui est là et qui est habilité à donner les premiers soins.
Le problème vient d'où, selon vous, à ce moment-là, quand on parle d'une augmentation de la toxicomanie dans la région?
Bien... J'aime pas ça pointer la pandémie, mais tu sais, depuis les derniers jours, j'ai donné quelques entrevues, puis on fait un peu le lien dans le sens où les besoins, là, ça a explosé, là, mais c'est de tout ordre, tu sais. Les gens ont vraiment beaucoup, beaucoup, tu sais, la détresse psychologique, les gens, on dirait qu'ils consomment plus ou c'est plus visible, tu sais. L'itinérance est plus visible au centre-ville. La crise du logement social, les gens n'arrivent plus à se loger, n'arrivent plus à se nourrir. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui font des demandes, mettons, pour des services alimentaires. Les banques alimentaires explosent. Fait que nous, c'est les gens qu'on traite puis qu'on rejoint. Puis les substances sont plus nécessairement de la même qualité qu'elles étaient.
C'est quoi la dope qui circule à Québec? Qu'est-ce qui
beaucoup
est hyper populaire?
Beaucoup de stimulants. Ben, c'est ce qu'on observe à l'interzone. T'sais, 80% de ce que les gens viennent consommer, c'est dans la catégorie des stimulants. Donc, crack, freebase, du speed, du crystal meth aussi, de plus en plus.
Cocaïne, c'est aussi beaucoup présent.
Cocaïne, c'est toujours présent. Puis les opiacés, dilodine, morphine.
Mais ces produits-là, comme le crack, là, bon, on est à peu près dans les mêmes décennies, vous et moi. Là. Vous avez de l'air beaucoup plus jeune que moi. Mais
t'es gentil.
Quand on était jeune, on disait que... T'essayes le crack une fois, c'est de l'addiction automatique. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui?
Bien, quand même. Mais écoute, c'est assez addictif. Moi, je me risquerais pas aujourd'hui.
Ouais. Puis est-ce qu'il y a de la formation qui est offerte à ces utilisateurs de drogue-là? Voici ce que vous avez maintenant dans le produit que vous êtes en train de consommer.
Oui, c'est ce qu'on essaye de faire avec le service de vérification de substances. Il y a beaucoup d'enseignement, de counseling qui est fait. T'sais, on essaye de les sensibiliser. OK, tu penses que tu vas consommer ça? Viens nous voir, on va regarder. On a différentes technologies pour analyser ta substance. Fait qu'il y a ce qui est attendu, puis il y a ce qui, finalement, se retrouve réellement dans ton produit. Mais après ça, il y a toute la sensibilisation qui est faite autour.
Parce que moi, je ne suis pas un consommateur. Je suis un consommateur de Coors Light. On me dit que c'est de l'eau gazéifiée.
C'est un peu ça.
Mais bref.
C'est soft.
Pas capable de boire d'autre chose. Fait que je bois de la Coors Light. Mais quand je parle à d'autres personnes qui sont de bons consommateurs, des gens qui peuvent aller à SQDC ou qui ont leur propre pusher depuis comme 20 ans. Bon, à la SQDC, ce qu'on comprend, c'est que les produits sont surveillés.
Sont contrôlés.
Et ça peut être, entre guillemets, sécuritaire quand vous utilisez ces produits-là. Mais des gens qui disent « Ah, ben moi, je fais affaire avec le même pusher depuis 20 ans, 30 ans », je leur dis toujours « Oui, mais... Je comprends que ce gars-là, pour toi, c'est quelqu'un de confiance, mais en amont, qu'est-ce qu'ils mettent dans ce produit-là? Tu le sais pas. Ton pusher, avant de te donner le produit, il fait pas l'analyse comme vous le faites, vous autres, à SABSA. Donc, je comprends que tu lui fais confiance, mais il veut pas nécessairement ton bien. En fait, il veut ton argent, mais il veut pas nécessairement ton bien. Là.
Non, mais en même temps, il a tout intérêt à bien traiter son client, dans le sens qu'il veut qu'il revienne. Mais nous, ce qui nous inquiète plus, c'est l'apparition de nouveaux laboratoires ou gens qui ont peut-être moins...
Pour de la mettre, là?
D'éthique qui savent pas ce qu'ils font. Puis il y a des produits de coupe, puis il y a...
Fentanyl, c'est encore pas mal la mode?
Oui.
Oui. Avez-vous les fameux produits qu'on peut distribuer dans les pharmacies, que les policiers, naloxone. Les ambulanciers
naloxone,
ont?
Oui, l'antidote à une surdose d'opiacés, l'naloxone, on en distribue énormément.
Ouais.
Les pharmacies aussi,
ça, c'est bon,
les organismes communautaires.
Quand on est des amis ou des conjoints, des conjointes de gens qui consomment régulièrement ce type de drogue-là, d'en avoir sur soi, même si on n'est pas
je
des
le recommande.
Ben oui, c'est ça.
Tout à fait.
En manquez-vous, vous autres? On a vu, il me semble, des articles des dernières semaines comme quoi il y a certaines pharmacies qui en manquaient. Là. Êtes-vous en genre de pénurie de l'naloxone?
Pas de notre côté.
Ça se passe bien?
Oui, on en a.
On a parlé des drogues, justement, qui sont entrecoupées, qui ne sont pas nécessairement du bon stock en bon québécois. Là. Justement, l'unité mobile, j'ai envie qu'on en parle parce que c'est comme le troisième de vos services qui se promène bon, dans les festivals, dans les événements, ce que je trouve hyper pertinent. Les façons de tester les drogues, comment ça fonctionne? Mettons, moi, j'arrive avec mon sachet, là. Qu'est-ce qui se passe?
Bien, on va prendre le temps, on va te dire bonjour. On va te dire, as-tu déjà consommé cette drogue-là ou tu as l'intention de la consommer? La connais-tu? Puis là, ben, là, on a trois technologies. Okay? On a le spectromètre, qui est comme une technologie à l'infrarouge, si je ne me trompe pas. On prend une petite quantité qu'on peut te remettre par la suite, hein, parce que des fois, les gens, ils veulent pas sacrifier leur conso. Puis c'est correct. Cette technologie-là peut nous dire à 5 % à peu près de fiabilité qu'est-ce qu'il y a dedans. Fait que là, ta coke, y a-t-il de la caféine, elle va nous le dire, y a-t-il du sucrose, tout ça, tu sais, à quel point elle est pure, entre guillemets, OK? Y a de la colorimétrie, ça, c'est plus chimique. Fait que ça, là, on fait des mix. Puis là, avec une charte de couleurs, on est capable de dire, OK, ta coke, elle contient bien, bel et bien de la coke, mais peut-être autre chose. Puis on a aussi des bandelettes de détection de fentanyl, qui est un outil qui marche quand même assez bien, puis qu'on peut remettre aux gens. Puis là, c'est comme un petit test de grossesse. Là, t'as une petite bande, tu dilues ta coke, admettons, avec de l'eau, puis là, on insère ça là-dedans. Fait que, tu sais, tout le processus, là, d'un bout à l'autre, ça va prendre entre 15 et 20 minutes, là, pour tester ta substance. Puis là, pendant ce temps-là, ben, les intervenants vont jaser avec toi. Puis vont regarder.
Les gens sont-tu gênés?
Les gens sont gênés, oui.
Ouais,
mais il reste de la promotion, de la sensibilisation à faire.
La bonne nouvelle, c'est que c'est dans l'anonymat le plus total.
C'est dans la confidentialité, l'anonymat le plus total. Nous, on ne prend pas de nom, on ne tient pas de registre.
Sans jugement aussi, j'imagine.
Sans aucun jugement. En toute légalité aussi, il faut le dire.
Audrey l'a abordé un petit peu la question tantôt, mais je veux être bien certain que moi, je l'ai bien saisi. Moi, je suis un peu plus lent qu'Audrey. des jeunes, des hommes, des femmes, c'est quoi les tranches d'âge, votre clientèle la plus régulière à SABSA? Ou encore la clinique d'injection?
Ça dépend un peu des volets de service. Je te dirais que l'interzone, c'est plus des hommes. On est plus dans le 35-45, OK?
35-45.
Mais tu sais, c'est peut-être plus aussi pour une clientèle de rue qui n'a pas d'espace pour consommer. OK? Ça ne veut pas dire que c'est ça le portrait des consommateurs à Québec. Il faut faire la...
Oh, je suis pas certain que si on va au palais de justice, il y en a qui utilisent ça, puis on les voit jamais.
Distinction. Ouais. Là, le service de vérification de substances, quand on va dans les festivals, c'est complètement d'autres choses. Là. Ça peut être de tout âge et...
Ah, ça, c'est sûr. Là. Il y en a souvent qui vont essayer pour la première fois aussi quand on parle de festival. Mm-hmm. Prenons Cigale en exemple en fin de semaine. Quoique, j'ai pas l'impression que c'est là que les gens consomment le plus. Là, l'ambiance du festival fait en sorte que je sens que les gens sont un peu plus sur des boissons légères puis on profite de la belle température puis de l'eau, mettons. Là. Mais en fin de semaine, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus faire tester leurs produits à Cigale?
Oui, il y a eu quelques vérifications de substances qui se sont faites. Principalement des perturbateurs de...
Qu'est-ce qu'on appelle les perturbateurs?
De l'ecstasy, admettons.
OK,
MDMA.
OK. Ouais. Moi, je pose des questions, je ne connais pas ça pendant tout le temps.
Bien correct, c'est un monde en soi. C'est vraiment un univers.
J'ai envie de rentrer dans notre conversation un texto qu'on a reçu hier d'un auditeur, puis je vais y aller de façon anonyme parce que c'est quelqu'un qui cherche des solutions. Puis par rapport à tous les services que vous offrez, je me dis que peut-être qu'il y a des gens qui vont se reconnaître. Cette personne-là demandait comment je peux avoir accès à des tests pour neurodivergence si mon médecin m'en refuse l'accès. Est-ce qu'elle a le droit? J'ai un long parcours en santé mentale fragile, anxiété généralisée. Après ça, elle dit plusieurs arrêts de travail pour épuisement psychologique, détresse, constant sentiment d'échec. Elle n'en peut plus. Cette personne-là ne sait pas vers où se tourner non plus. Se demande à qui elle peut avoir accès comme professionnelle de la santé rapide. Et on vient de recevoir un texto. Cette personne-là veut savoir si vous seriez peut-être une option pour l'aider dans ce type de problème-là.
C'est tellement, Audrey, des choses qu'on entend souvent, puis dont on est témoin. Il y a tellement de gens qui se tournent vers nous, puis Puis c'est triste, là. À chaque fois, là, ça me touche, là, personnellement, parce que je ne peux que constater à quel point notre système...
est mal fait. Je vais le dire à votre place.
Merci. Merci. Non, mais est pas conçu pour répondre à des complexités de problèmes comme ça. Mm. Puis les gens, c'est le syndrome de la porte tournante, puis ils vont s'adresser à une place, puis c'est compliqué. Bon. Je peux pas dire oui, appelle-nous, on va prendre en charge, puis on va être la solution magique à ton problème. Là. Peut-être qu'on peut faire un bout. Il y a des critères, il y a des conditions, il y a des choses. Il faudrait voir ce qui a été fait par le passé. Puis,
Mais il y a moyen de s'informer auprès de vous,
tout
du
à
moins,
fait,
là,
tout
parce
à
que
fait.
J'ai l'impression que les gens manquent de ressources aussi à un certain point. Fait que je transmettrai les informations. Drôle de question, mais tu sais, des fois, entre collègues, peu importe le domaine, on refait le monde. Hein. On jase. On
pense
dit...
toujours qu'on a raison.
Ah, on pense toujours qu'on a raison. On se dit, s'ils faisaient ça,
job.
Là.
Maudit bel job!
On fait jamais chialer après.
Mais je me dis qu'entre collègues, vous devez refaire le monde de temps
souvent.
À autre aussi. On parlait du système de santé qui en arrachait. Vous faites partie de ces solutions-là, des gens qui essaient d'aider à bout de bras. Y en a-t-il des solutions qu'on pourrait apporter dans le système de santé, selon vous, qui pourraient aider la machine? Quand vous vous jasez entre collègues.
Bon, là. Nous autres, on essaie de garder ça simple, je te dirais. La loi du gros bon sens. Tu sais, de pas... c'est ça, la structure est tellement grosse, énorme, avec des contraintes, des règles, des processus, procédures. Puis, tu sais, je critique pas, là. Ils font leur possible avec ce qu'ils peuvent. Mais nous, tu sais, ça prend des alternatives. Ça prend des ressources communautaires. Il faut soutenir les initiatives de la communauté. On est proche de notre monde. On est sur le terrain. On sait c'est quoi les besoins. On a la capacité de se revirer vite, sur une scène, d'amener des initiatives. Fait que, s'il vous plaît, soutenez-nous financièrement.
Est-ce que vous cherchez du monde? Manquez-vous de personnel, je veux dire, au niveau
on
des...
On est encore bon. Quand ouais. on recrute, on n'est pas pire. Mais, tu sais, il faut être capable d'offrir des bonnes conditions de travail, je te dirais. Ouais.
Totalement.
Et quand vous dites, tu sais, aidez-nous financièrement, qui vous aide? Quels sont les paliers de gouvernement qui vous aident? Puis, est-ce que les utilisateurs, avec leur carte d'assurance maladie, donnent une certaine partie?
Non, parce que, c'est pas, il n'y a pas de médecin chez nous. Donc, les super infirmières sont c'est des prêts de service du CIUS. OK? Et donc... quand les gens viennent en consultation, okay. on les voit qu'ils aient une carte de RAMQ ou non.
Ouais,
ces professionnels-là sont à salaire.
Oui, mais je comprends. Mais moi, quand je vais dans une clinique, j'ai rencontré une
oui.
super infirmière, comme oui. ça vous l'appelez. J'en ai rencontré une. J'ai dû passer ma carte d'assurance maladie.
On la prend, la carte. Là. Ouais. Il y a une trace qui est laissée à quelque part, mais la personne va être vue même si elle n'a pas de carte.
Je comprends. Mais le gouvernement doit vous rémunérer pour ça, parce que vous avez vu un patient.
C'est des ententes. C'est des ententes de subvention. Ça ne marche pas nécessairement au débit,
je
te dirais. OK.
Mais okay. c'est intéressant quand même.
Oui, SABSA, l'adresse de SABSA, c'est 265A rue de la Couronne, c'est
oui.
bien ça? Ça, c'est la grosse rue qui descend de la haute ville de Québec puis qui s'en va en basse ville.
Exactement.
Je vous dirais que c'est entre Gabriel Leroy, la bibliothèque Gabriel Leroy, puis l'ancienne usine Rotmans ou l'usine Rotmans.
Oui.
Donc, c'est directement dans le milieu. Si vous descendez de la haute ville, donc vous dirigez vers le nord, c'est à votre droite. Puis si vous montez, il faut monter par l'autre bord, par Dorchester. Tourner à gauche, puis revenir sur de la couronne, puis c'est à
ouais, puis là, il y a des travaux ce temps-ci, fait que c'est un peu le bordel.
Ouais.
Si jamais vous avez des questions, évidemment, allez faire un tour sur le site web, c'est bien fait. Osez appeler. Vous allez du côté avec la clinique mobile d'Envolée Macadam, si je ne me trompe pas, en
oui.
septembre prochain. Je le mentionne parce que c'est un festival qui touche énormément d'auditeurs à Boulevard 102.1. Osez donc aller poser vos questions si jamais. Puis tu sais, des fois, c'est pas une question
oui,
de faire tester sa drogue. Là. C'est une question de j'ai mon ado avec moi, je sais qu'il est curieux. Il y a peut-être des questions auxquelles vous pouvez répondre ou de la prévention. Je trouve ça vraiment extraordinaire comme coopérative. Je suis très contente que vous ayez accepté de nous voir ce matin.
Ça nous a fait grand plaisir.
Merci beaucoup, Amélie Bédard, directrice générale de la coopérative SABSA et travailleuse sociale de formation qui était avec nous en studio. Vous revenez n'importe quand, vous êtes bonne.
Merci beaucoup.
Si vous ne l'aviez pas été, on vous aurait pas repris.
C'est ça. J'ai bien compris.
On ne vous l'aurait pas dit. 10h48, on vient.
T'es un fan de podcast?
C'est un rayon de soleil, mais des fois... à trop de gaz.
Hey, c'est comme un compliment.
De qui je parle? 418-971-1021, 418-971-1021. Comment ça va sur la route, les amis? Vous avez des choses à nous dire. Merci de nous écrire par texto. Je vois que sur Laurentienne, direction, je vous dirais direction sud. Pour prendre l'embranchement sur la capitale, direction ouest, ça semble être un peu plus achalandé. Ailleurs, ça ressemble à quoi?
Il y a effectivement des problèmes dans ce coin-là. Sinon, c'est vraiment Robert Bourassa, direction sud, entre chemin Sainte-Foy et Laurier. Il y a des travaux dans ce bout-là. Hein. Ça paraît, ça ralentit un peu. Pour le reste, ça roule super bien, évidemment. Quoi que ce soit, 88-971-1021. Le téléphone, c'est le 780-1021. Vous n'hésitez pas non plus. Hein. La ligne est toujours ouverte. Et il y a le Twitch, twitch.tv, BLVD, barre en dessous, FM.
Y en a-tu des cônes orange à Québec?
Ah, tabarnouche.
Y en a partout à Montréal.
On s'en vient,
Montréal. C'est bien plein aussi. Puis on parlait avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables hier. Puis j'ai été voir sur une entreprise de location de cônes orange. Là. Un cône, ça inclut le mettre et après ça, ça inclut de le ramasser. C'est 7$ par jour. Un cône.
Arrête!
Ouais.
Et que ça doit coûter cher. Hein? C'était épouvantable. Ouais.
Fait que là, j'ai eu idée hier soir, d'aller voler des cônes orange puis de me partir une compagnie de location.
C'est
de cônes. Ben quoi? Ça se fait?
Mais non, mais écoute, l'idée est pas mauvaise.
L'idée, ben c'est un vol en passant.
Ben c'est ça le problème.
On me dit que c'est criminel. Là.
Exact. C'est plus la première étape qui manque de finesse.
Ouais. Mais tu penses-tu que les compagnies ramassent juste leurs cônes à eux, mettons?
Ben là, je...
Cône orange, là, t'sais, le nom n'est pas écrit dessus. Là.
Mais le nom doit être identifié à quelque part. Je vais te répondre que c'est sûr qu'il y a sûrement un ou deux comptes qui sont volés ici de temps à autre. Mettons qu'on on est des humains, hein? L'humain n'est pas toujours intelligent.
Ouais, c'est ça. Ça faisait des beaux apparts quand on était ado.
Oui! Il y en avait de la merde qui se retrouvait dans les apparts étudiants. Hein?
Moi, le camp du oui, camp du non, là, j'avais des affiches chez nous, camp du oui, camp du non.
Mais voyons.
J'avais des drapeaux du Québec.
Disons tout ce qu'on ramassait dans la rue, là, des pancartes stop, il y avait ça dans un de nos appartements. C'est pas moi qui l'avais volé, mais il en faisait des niaiseries au cégep.
Ouais. Hey, les amis, bon, je sais que notre show est un peu plus human. Là. On prend le temps de jaser de tout ce qui touche l'être humain, mais je pense qu'en fin de semaine, je vais jouer avec vos nerfs.
Pourquoi?
Parce que je vais vous fermer le pont de Québec.
Ah oui!
Je vous ferme ça vendredi 16 août en soirée jusqu'à lundi matin 19 août. Et je vous ferme ça le 23 août en soirée jusqu'au lundi matin 5 heures, ouais, à peu près, 26 août.
Fait que prévoyez vos déplacements.
Donc oui, prévoyez vos déplacements, mais je lisais des témoignages en fin de semaine de gens qui ont été pognés sur l'autoroute. Tu sais, quand t'es pogné, ça a 20 pendant 1h30. Pour prendre, mettons, tu veux aller à Montréal, mais là, t'as comme la section, faut que j'aille prendre le pont de la porte parce que le pont de Québec est fermé. C'était très ordinaire pour la plupart des gens qui circulaient dans la grande région de Québec puis qui voulaient juste aller à destination.
Mais on
s'informe
pas,
prendre 3 heures.
On oublie de s'informer aussi. Dans
c'est
le sens
pour ça qu'il faut écouter la radio.
Voilà, écoutez Boulevard 101, vous aurez toujours vos informations.
Puis en même temps, c'est drôle de dire, hey, c'est avant puis après. Moi, dimanche soir, c'était plein de trafic. Là.
Ouais.
Il était 9 heures.
T'es débile. C'est complètement débile. Je veux qu'on jase d'actualité, mais un sujet qui est quand même humain à quelque part, parce que je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs qui travaillent dans le domaine de la santé. On en a parlé étroitement dans l'entrevue qu'on a fait un peu plus tôt avec SABSA, mais vous avez certainement vu passer les informations quant à la violence au travail qui a pris de l'ampleur dans le milieu de la santé, des services sociaux. En seulement 4 ans, Yann, là, le nombre de réclamations acceptées pour des blessures au travail a grimpé de 40 % à Québec, dans les hôpitaux, entre autres. Fait que ça soulève des inquiétudes, on va se le dire. Est-ce que vous en vivez au travail, dans le milieu de la santé, 88-971-101? Je suis vraiment curieuse de vous lire. Mais c'est un enjeu pour énormément de gens en santé qui aiment leur job, mais qui sont un peu à bout de se faire violenter verbalement et malheureusement, physiquement aussi. Puis hier, on recevait la docteure Élise Berger-Pelletier, qui est urgentologue, qui faisait son retour dans Gravel dans le retour. On a jasé toutes sortes d'affaires, mais on a comme profité pour y demander rapidement de commenter ça, à savoir si tu veux où on grossit un peu l'histoire. Tu sais, des fois, on prend l'histoire de quelqu'un puis on en fait une généralité. Fait qu'on lui a demandé si c'était le cas puis sa réponse a été oui. Mais je vais vous faire entendre un bout de la conversation qu'on a eue parce qu'on lui a demandé comment ça pouvait se décliner et il y a 3 phénomènes reliés à cette augmentation de la violence là, quand on parle du domaine de la santé. Là.
Un, il y a l'insatisfaction générale de la population qui ont la perception qu'ils n'ont pas d'accès puis qu'ils voudraient quelque chose puis qu'ils ne l'ont pas. Fait que beaucoup de violence verbale, là, on est à la radio sur une heure de grande écoute, fait que je ne dirais pas des mots de poubelle, là, mais pensez à toutes les injures que vous avez pu entendre. Des fois, ça sort de la bouche d'une seule et même personne envers une infirmière qui a donc pas besoin de se faire dire ça dans la vie. Fait qu'il y a ça. Le deuxième phénomène qui est plus grave, entre guillemets, parce que c'est de la violence physique, puis souvent, il y a des séquelles, c'est qu'on a de plus en plus de gens avec des troubles de comportement. On parle beaucoup de la personne âgée avec une démence type Alzheimer. C'est un phénomène, le syndrome de comportement dans la démence. Donc, c'est le gros monsieur bâti de 85 ans qui pense que toi, tu vas aller l'agresser puis qui est persuadé dans sa démence que t'es pas gentil puis qui va essayer de te frapper.
Quand tu dis trouble de comportement, là, c'est des gens qui ont pas toute leur tête. C'est pas juste des adultes qui savent pas vivre.
Non, quand je parle de démence, c'est vraiment la personne qui n'a plus nécessairement conscience de son environnement. Mm-hmm. T'sais, les gens ne savent même pas qu'ils sont à l'hôpital, par exemple, ouais, là où ils ne savent pas. Fait qu'en CHSLD, dans les unités de réadaptation, dans tous les secteurs où on soigne des personnes très âgées, phénomène-là augmente.
C'est un contre-coup du vieillissement de la population? Oui, carrément.
Plus, oui.
On vieillit plus, mais on dépérit plus aussi.
Exactement. Ouais. C'est que dans le fond, tout ce qui est démence, là, Alzheimer, les séquelles d'AVC, name it, mais ça, malheureusement, là, la médecine n'est pas encore capable de traiter puis prévenir beaucoup la démence Alzheimer, entre autres, ce qui fait qu'il y en a de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées. C'est des proportions, ça va de soi. Ce qui fait que ces gens-là survivent de leur infarctus, de leur pneumonie, puis ça, mais ils continuent à vivre. Mais là, plus ça va, plus souvent, ils sont plus conscients de rien. Puis là, à un moment donné, vient, comme je te dis, vraiment, puis je donne toujours cette anecdote-là parce qu'elle est rigolote pour moi, mais ça donne le sérieux de la situation. Moi, j'ai été enceinte 3 fois. Les 3 fois que j'ai été frappée dans ma bédaine, c'était pas des gens intoxiqués, c'était des personnes âgées que je m'attendais pas à ça, genre qu'elle allait me donner un coup, puis tout d'un coup, je réagir au fait que j'étais à côté d'eux. Maintenant, j'ai appris.
Je garde une
distance. Plus attention.
Tu t'es padé, ouais.
Mais c'est un classique. Puis quand je te dis violent au point où il faut avoir 3 agents de sécurité pour contrôler des gens de 85 ans, là, c'est impressionnant. Fait que oui, ça, c'est un phénomène qui est là. Puis le troisième qui est aussi en lien avec les surdoses, c'est tout le volet santé mentale. On a une augmentation des problèmes santé mentale, toute cause. Fait que la personne qui est en crise suicidaire, qui ne veut pas venir à l'hôpital, qui va se débattre puis qui là, va frapper un préposé aux bénéficiaires, par exemple, ça aussi, c'est en augmentation.
C'est fou, là.
Ça me frappe à chaque fois, là, peut-être que c'est moi qui est trop sensible pour les femmes puis les femmes enceintes, là, mais de savoir que la personne continue de faire ce type de métier-là, c'est-à-dire d'aider les êtres humains. Et il y a quelqu'un qui n'a peut-être pas toute sa tête qui décide de frapper dans le ventre de cette personne-là pour faire du mal à cette personne-là, plus le bébé, j'ai des envies de rage. Je sais que j'ai pas le droit d'avoir ça.
Non, mais
j'ai
c'est
des
normal.
Envies de rage.
C'est normal, je pense. Mais souvent, ce qui est plate, on a entendu la docteure Élise Berger-Pelletier, c'est qu'il y a de la démence. Il y a des gens qui sont un peu inconscients, quelque part, malheureusement, de leurs gestes aussi. Tu sais, on a un texto qui vient d'entrer. Ma mère battait les proposés avec sa canne. Tu sais, à un certain point, j'ai l'impression que malheureusement, quand on parle des gens très, très âgés, c'est pas toujours conscient. Puis ces épisodes de violence-là, c'est tous les jours en passant dans le système de santé. Les menaces de mort qui arrivent souvent aussi. Tu sais, les gens sont malades, sont pas bien, sont impatients. Et puis on peut tous plaider coupable à un moment ou à un autre d'avoir un peu été impoli ou impatient, justement, peut-être avec des infirmiers, infirmières, des gens qui essayaient juste de prendre soin de nous. Tu sais, Yann, super niaiseux comme exemple, j'avais 14 ans, quand je me suis fait opérer pour me faire enlever la vésicule biliaire, j'avais des pierres dedans, c'était épouvantable, la douleur. Je me suis fait opérer, puis vu que c'est pas urgent nécessairement comme opération, j'ai été comme un bon 3 semaines là, sur le jello là, à sortir, rentrer à l'hôpital parce que c'était pas tout de suite finalement l'opération, il y avait d'autres urgences. Quand ils m'ont fait jeûner là, pendant comme 48 heures au début parce que l'opération était repoussée, là, je disais, j'étais insolente, là. 14-15 ans, là, je veux dire, j'avais pas le goût d'être là. J'étais en tabarnouche d'être pognée, tu comprends, c'est une civière super vulnérable. Puis quand ils me réveillaient la nuit pour reprendre mes prises de sang, j'étais pas fine, là. J'ai-tu des regrets aujourd'hui? 100%. Mais les travailleurs de la santé sont des saints. Puis c'est du cas par cas parce que, tu sais, Élise nous racontait aussi que il essaie d'y aller vraiment au jour le jour, de ne pas utiliser la violence physique, de ne pas essayer de maîtriser tout de suite les patients. Mais elle disait, tu sais, des fois, moi, comme docteur fille, ça va arriver que je vais m'interposer dans une situation entre un préposé ou un infirmier ou un docteur homme et un patient. Juste parce que je suis une fille, ça calme le patient parce qu'il ne veut pas justement faire de mal à une femme, tu sais.
Mais ce serait aucune tolérance. Puis, tu sais, je salue docteur...
Élise Berger-Pelletier.
Pelletier?
Oui.
C'est le P, oui, c'est ça, je me rappelais plus du P. Mais je la salue parce qu'elle m'avait raconté cette histoire-là. Je savais qu'il y avait un médecin qui m'avait raconté cette histoire-là, qu'elle s'était fait frapper dans le ventre, mais je me rappelais plus si c'était elle ou si c'était un autre médecin, femme, qui m'avait raconté ça. Mais ça me frappe à chaque fois. Mais ce que j'aime beaucoup de Dr Pelletier, c'est qu'elle est très, très, très honnête. Là. Puis le début de son explication, tout est dans tout, hein?
Un, il y a l'insatisfaction générale de la population qui ont la perception qu'ils n'ont pas d'accès puis qu'ils voudraient quelque chose puis qu'ils ne l'ont pas. Mmh. Fait que beaucoup de violence.
Qui ont la perception, c'est pas... Là, on peut jouer un peu sur les mots, là. C'est vrai qu'on n'y a pas accès au système de santé.
La première ligne est difficile.
Quand on réussit à rentrer à l'intérieur du système de santé, là, ça va relativement bien, oui, parce que tu as des rendez-vous, des suivis de la part des professionnels et tout ça. Mais mettez-vous dans la tête d'un travailleur ou d'une travailleuse qui n'est pas souvent malade. Mmh. Puis qui est à bout parce qu'il a attendu comme pendant 3 semaines, 1 mois avant de se présenter à l'urgence.
Totalement.
Puis que là, il a l'impression que sa vie en dépend parce que sa vie est rendue épouvantable. Puis là, la personne qui est au tri dit, ben là, c'est pas urgent votre affaire, donc ça se peut que vous attendiez 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures. Là, t'es là, t'attends, les heures se suivent. Puis là, tu connais pas le système de triage, toi. Tu y vas jamais là-dedans.
Tu sais pas comment ça marche.
Fait que tu sais pas comment ça marche, puis tu sais pas, les ambulances, t'es vas pas passer en arrière. Puis là, ben, tu vois qu'à un moment donné, il y a une infirmière qui est en pause, puis elle va fumer sa cigarette dehors, ou elle va prendre son petit café, puis elle a un grand, grand, grand sourire, alors que toi, tu souffres le martyr, t'entends des enfants qui pleurent dans la salle. T'arrives, tu rencontres l'infirmier au tri, il te place, tu retournes dans la salle, t'attends des heures, tu t'en vas voir le médecin, puis le médecin dit « Ouais, d'après moi, là, retournez chez vous, du repos, puis prenez 2-3 aspirines, ça pourrait passer. » C'est fâchant. En sacrifice,
on peut tout plaider coupable d'impatience.
On a parlé d'infirmières spécialisées tantôt.
Oui.
Les infirmières cliniciennes, les super infirmières et tout ça. Je pense que les super infirmières vont pallier justement à autant qu'on peut attendre de rencontrer le médecin.
Oui, c'est entamé. Ça ne représente pas beaucoup. Au Québec, c'est genre 40 super infirmières en ce moment qui peuvent aller en première ligne. Il n'y en a vraiment pas énormément, mais ça va y aller de plus en plus.
Moi, j'en ai rencontré une en Beauce dernièrement pour une petite problématique. Écoute, j'avais l'impression de rencontrer un médecin, là. T'sais, je sais que ce n'est pas un médecin, c'est une super infirmière. Elle se présente comme ça, de cette façon-là. Coopérative de santé Robert Clich, de mémoire. Et j'avais mon rendez-vous, je l'ai rencontré. On a fait quelques tests. Elle m'a fait une prescription, puis tout était réglé.
Ouais.
Je veux dire, si on avait plus de monde comme ça, formé homme-femme, là, pour pouvoir pallier au manque de médecins qu'on peut avoir, ce serait formidable. Mais le début de ce que Élise dit, Dr Pelletier dit, je trouve ça formidable parce qu'elle s'en rend compte.
Mais oui, mais non,
elle sait que les gens sont frustrés en arrivant.
Et puis une chose que je tiens à dire aussi, là, c'est pas à faute nécessairement des médecins, des infirmiers, infirmières, des préposés de ce monde-là qui travaillent dans l'hôpital. C'est le système qui est mal foutu à un certain point. Là.
Puis ta piètre connaissance du système de santé. Parce que tu as un système de tri au départ.
Oui.
Puis le médecin, lui, il va avec des hypothèses. Puis il envoie du monde malade comme toi tous les jours. Puis il sait que des fois, tu peux retourner à la maison, prendre les 2 aspirines, te reposer, puis ça va passer.
Mais tu vois, ça, c'est la raison principale pour laquelle Élise vient souvent nous voir dans le retour. C'est d'éduquer le monde au fait que l'urgence n'est pas la solution numéro 1. Et pourtant, vous allez me dire, ouais, mais Audrey, c'est tellement difficile. Le 8-1-1 et compagnie, c'est la merde. On a de la misère à rejoindre quelqu'un, fait qu'on se présente sur place. Mais il y a moyen d'aller voir ton pharmacien avant, d'appeler justement, tu sais, de prendre l'information avant de te rendre à l'urgence, puis peut-être que tu vas le savoir d'avance que des 2 Tylenol, ça fait la job. Mais il y a autant de mauvais côtés d'un bord puis de l'autre. Ça excuse pas, par exemple, la violence en santé pour moi. Là.
Non, non.
L'autre chose que j'ai trouvé intéressante dans notre conversation, c'est les coûts monétaires, je veux dire, dans le système de santé qui augmentent à cause de cette violence-là, parce que ça prend de la sécurité. On y a demandé, est-ce qu'il y en a de plus en plus de la sécurité dans les hôpitaux?
Il y en a de plus en plus. Ça aussi, c'est...
Ouais.
Tu sais, quand on dit que les coûts de soins de santé augmentent, le nombre d'agents de sécurité qui doivent être engagés, là, c'est phénoménal.
Ah,
là,
ouais.
Ça doit être des centaines de pourcents de plus depuis quelques années. On a des milieux hospitaliers dans la région de Montréal maintenant qui ont des détecteurs de métal qu'il n'y en avait pas avant parce qu'il y a eu des gens qui sont rentrés armés. Donc non, la violence, c'est vraiment un phénomène qui est en croissance partout.
Ça en dit long.
Oui. Est-ce que plus de sécurité, ça va régler plus, je sais pas.
Ah, ben non, ça réglera rien, mais
ça sera au chiffre de faire parler. Mais je me souviens, moi, d'un épisode, je sais pas si ça t'avait marqué, Audrey, je pense pas que t'étais à la radio à ce moment-là, mais c'est une fille qui était rentrée dans un hôpital de Trois-Rivières, qui est allée à la pouponnière,
qui a pris un
enfant, puis qui a sacré son cas. Tu te souviens-tu de ça?
Absolument.
Moi, après ça, mon deuxième est né. Puis je me mettais à la place de cette fille-là en me disant « Ça serait-tu facile pour moi, en tant qu'individu, de voler un bébé? » Puis j'étais rentré dans l'unité de maternité. Puis il y avait des... Tu sais, il n'y a pas personne qui me demandait d'où je venais, là. Tu sais, il n'y a pas personne qui me regardait. Le bureau des infirmières était peut-être un peu plus loin. J'aurais pu partir avec n'importe quel enfant.
C'est peut-être une bonne chose dans ce sens-là qu'il y ait plus de sécurité aussi.
Oui,
là,
oui, c'est une très bonne chose. Sauf que, à partir du moment où je devais quitter l'hôpital avec mon enfant, j'avais 6 infirmières pour surveiller la date d'expiration de mon bain de bébé.
C'est fou, hein?
Mais je rentrais là-dedans.
Les
là.
Priorités.
Comme dans une grange.
Mais ça avait été traumatisant, cette histoire-là, en Mauricie. Il y a même un documentaire qui avait été fait. Moi, ça m'avait fait capoter.
Tu penses que je dormais pendant la nuit avec mon enfant?
Je comprends donc.
Tout on dormait les deux dans la chambre. La mère, elle devait se reposer. Fait que tu comprends qu'elle dormait à point fermé, sauf quand on devait nourrir l'enfant. Mais moi, je dormais pas, là. Les moindres pas, je me réveillais.
Suivait ce qui se passait. Ça joue dans la tête. Hein?
Ben, à un moment donné, ils m'ont enlevé mon couteau de Rambo. Là. Ils trouvaient que c'était peut-être un peu trop intense.
Donc, la violence dans le système de santé, ça existe bel et bien. Déjà qu'on manque de personnel, que les conditions sont difficiles pour les travailleurs, j'ai beaucoup d'empathie et d'admiration pour ceux qui travaillent dans le système au day-to-day. Là. Évidemment qu'on n'est pas super bien servi, mais pour moi, c'est pas la faute directement de ces employés-là non plus. Là.
Exact. Max, les news. News.
Let's be know what's going on.
Merci beaucoup, mon Max. Il est quelle heure? 11h10. Pascal Sévic a bien hâte de commencer. Elle va être aux alentours de quoi? 11h30?
À peu près.
Elle a demandé si elle voulait rentrer tantôt. J'ai dit tu voulais pas.
Arrête, t'as pas dit ça.
J'ai clairement dit ça.
Arrête.
Ah oui, elle s'en voulait. Là. Elle disait, mais qu'est-ce que j'ai fait à Audrey?
Ah, franchement, là, tu mets la marde pour rien.
Travailler avec des filles, c'est tout le temps ça. Hein?
Quoi? Hey, mon Dieu, là! Tu sais que les filles, on sait plus se tenir souvent que les gars, je trouve, ouais, à ce niveau-là. Ben, de plus en plus. Peut-être que c'est l'entourage que moi, je me crée, mais moi, le chichi, là, je me tiens loin de ça.
Moi, la restauration, on était une gang de filles, une gang de gars, puis il y a des filles qui préféraient juste travailler avec des gars.
Ben, je comprends.
Parce qu'il disait que c'était tout le temps plus compliqué.
Mais quand j'étais plus jeune, c'est ce que je faisais.
Ah ouais.
Absolument. J'ai toujours été un peu one of the boys. Je me traînais beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les gangs de gars. Je sais pas, c'était plus simple. J'ai deux frères aussi. J'ai jamais été entourée de filles à la base.
T'es-tu fait brasser par tes frères? Parce que moi, je regarde les deux à la maison, ces deux gars, là, puis dès que j'ai pas un œil sur eux, ils se tapent l'un sur l'autre. Quand je les sépare, puis je dis « Là, toi, tu vas être dans ta chambre pendant 10 ans! » Là, l'autre, il dit « Ben là, finalement, il m'a pas frappé si fort que ça. »
Oh non, on s'est chamaillé, mais non.
Peux-tu aller le voir dans sa chambre? Voyons donc, tu me disais qu'il te dérangeait, là, comme deux minutes.
Mais je pense que le fait d'avoir des frères, par exemple, et d'être entouré de gars, ça m'a donné le goût de savoir comment me défendre, savoir, tu sais, j'ai rapidement... moi, j'ai fait des arts martiaux toute ma jeunesse. Plusieurs type d'arts martiaux. Après avoir fait ça, ben là, au cégep, tu vois, je voulais apprendre comment me défendre. Fait que j'ai fait des cours d'autodéfense féminine. Puis dans les dernières années, ben, j'avais introduit la boxe aussi dans mon quotidien. Fait que je pense que, je sais pas, le fait de me tenir avec des gars m'a peut-être donné envie de savoir comment être aussi forte. Je vais dire, ça a l'air niaiseux, même dans ma tête de petite fille, je parle. Tu sais, je voulais moi aussi physiquement être capable de me défendre.
Ouais. T'as-tu pensé faire de la lutte? Ah, mais c'est pas un sport. Ça.
Ah, franchement, arrête! J'embarque pas là-dedans, j'y vais pas. La lutte, là, c'est un art. C'est de l'athlétisme, c'est du théâtre. C'est... regarde, j'embarque pas là. Mais la boxe, j'étais tout à fait là. J'adore.
Tu m'as fait réfléchir hier.
Pourquoi?
Ben, parce que je te mentionnais que j'avais acheté une montre intelligente pour la première fois de ma vie, qui est probablement plus intelligente que moi. Et elle calcule mon sommeil et tout ça, à savoir mon sommeil paradoxal, mon sommeil profond, tout ça. Moi, je connais rien à ça. Mais je trouvais ça intéressant de regarder les statistiques. Puis là, tu me dis, il me semble que t'as pas un sommeil profond... très long.
Ouais.
Tu sais, des fois, j'ai un sommeil profond de 20 minutes. Puis là, je lisais, là, genre, crise cardiaque, sommeil profond, il y a peut-être un lien.
T'es censé avoir 2-3 heures de sommeil profond.
Fait que là, hier, j'ai fait le test. J'ai pensé à Audrey, non pas pour ce que vous autres vous pensez, mais vraiment parce qu'elle m'avait dit avant de me coucher.
La sagesse, hein.
Et je me suis dit, pendant une heure, je regarderai pas mes écrans, puis je vais me coucher.
Bravo!
Fait que j'ai fait mes lectures, pour pas que tu m'achales parce que j'ai pas fait mes lectures.
Bravo!
Fait que j'ai fait mes lectures hier, puis après ça... Pendant une heure, je faisais autre chose que regarder les écrans avant de me coucher. J'ai augmenté mon sommeil profond, qui est le sommeil qui t'empêche d'avoir des crises cardiaques ou d'autres maladies, de 25 minutes.
Bon, mais c'est un début.
Fait que cette nuit, j'ai dormi, sommeil profond, 45 minutes.
Oui, mais c'est un début. Un moment donné, ta tête va s'habituer. Parce que là, je ne vais pas te demander de façon indiscrète ce que tu as fait pour ne pas regarder des écrans là, 50 minutes avant d'aller dormir. Pour pas que tu sois trop stimulé, c'est juste ça mon point.
C'est juste pas la bonne heure pour me le demander.
OK. Crotté. Hey, parlons des écrans. Les écrans qui sont démoniaques, hein, quand on lit toutes les études qui peuvent sortir. Avec les écrans, on se gère pas. On gère pas le temps qu'on passe un devant ces écrans-là, mais on gère pas non plus nos émotions. Dès un très jeune âge, si je me fie à ce qu'on a lu dans les derniers jours, on gère pas notre poids, nos excès. On laisse aller notre mémoire, la charge mentale. Ça a un impact sur mille et une affaires, les écrans.
La patience aussi. Moi, mes gars, l'autre, je devrais pas raconter ça à la radio, mais en même temps, je je croirais pas, je vous ferais pas à croire que je suis parfait. Je descends en bas dans la cave.
Oui.
Puis je vois mon petit Zach, il a 8 ans. Là, il est en train de loader comme son jeu sur Xbox, là, parce que les autres, le samedi, dimanche matin, ils ont comme une heure pour faire leur jeu vidéo. Fait qu'il est en train de jouer sur Xbox, mais là, son jeu load, ben, il est sur son téléphone cellulaire. En train de regarder des vidéos YouTube.
Pendant ce
temps-là. Parce qu'il trouve que c'est trop long.
Mais en fait, c'est qu'on aime être stimulé tout le temps. Puis quand on l'est pas, on panique parce qu'on sait plus quoi faire de notre temps.
Les autres, au moins, on soufflait dans la cassette quand ça marchait pas.
On essayait que je faisais ça, moi aussi, avec ma GameCube.
Ouais.
Puis on va en parler des tout petits parce qu'il y a des nouvelles études qui sont sorties. Fait que commençons par les enfants. Une étude qui a été faite à l'Université de Sherbrooke qui montre que les écrans à un bas âge comme 3 ans, c'est pas bon. Là, vous allez me dire, ben Audrey, c'est logique. Là. On le sait. Mais c'est pas bon parce que ça accentue les crises chez les tout-petits. Plus un enfant passe de temps devant une tablette, un cellulaire, plus il risque de faire des crises de colère, ce qui va contribuer à augmenter encore plus son temps d'écran parce que souvent, les parents sont épuisés. Quand le petit fait des crises, on donne le seul pour qu'il se taise 1-2 minutes. Ça nous arrive tous, de ce que je comprends. Et ça devient un cercle vicieux qui peut compromettre son entrée à l'école. Pente fatale. Mais on va se le dire, le recours à la tablette pour calmer un enfant ne permet pas de développer des mécanismes pour gérer ses frustrations, comme nommer bon, ses émotions, parvenir à changer les idées, etc. etc. Ce qui fait que ça nous amène à ce qu'on observe depuis des années. Ça fait longtemps qu'on entend parler par les professeurs que les élèves sont de plus en plus difficiles à gérer dans les classes. Des crises ici et là, il y a un manque de ressources. Puis ça part un peu de la maison, de ce qu'on comprend dans cette étude-là qui a été faite chez nous. D'ailleurs, je vais vous dire rapido presto que je sais que les gars du matin dans Rage Against le matin, demain, vont parler à la chercheuse pour en jaser davantage de cet impact-là en bas âge parce qu'on se rend compte que c'est ça. Ces enfants-là sont tellement toujours absorbés par l'écran qu'ils n'apprennent pas à gérer ce qu'ils ressentent. Ce qui fait qu'il y a un refoulement qui se fait. Puis rendu à 5-6 ans, c'est bordélique dans la maison, c'est aussi bordélique à l'école. L'affaire, c'est qu'on ne donne pas l'exemple comme adulte. Puis un texte qu'on s'est partagé, Yann et moi, dans les derniers jours, que j'ai trouvé très, très, très intéressant. Surtout ce qui est excès. Un texte de la presse qui nous amène à réaliser que les écrans n'ont pas juste un impact sur notre perte de temps puis sur la surstimulation de notre cerveau. Ça s'appelle « Les distractions mènent aux excès ». Ça, c'est le titre de cet article-là. Okay? Et c'est là que tu comprends que tout est dans tout. C'est une étude néerlandaise qu'on a sortie qui fait, entre autres, la corrélation entre la prise de poids et les écrans. Les distractions générales même, je vais dire. Donc, par exemple, quand tu manges des chips tout seul devant ton bol, sans distraction, on en mange moins que si, par exemple, on grignote devant la télé, on va se le dire, là. Je sais pas toi, Yann, mais moi, je veux dire, quand je suis devant un film, c'est éternel, là. Le sac, il n'y a pas de fond, là. Je suis occupé,
Quand je suis à table, je suis capable de me gérer sur les desserts. OK? Sauf que, mettons, j'écoute... qu'est-ce que j'écoute? House of the Dragon, ça se peut-tu?
Oui, c'est très
possible. J'écoute ces temps-ci, là. Je peux passer au travers d'un pot de crème glacée rouleau
au complet
du début jusqu'à la fin.
Et
je m'en rends pas compte. Après ça, je commence à penser au diabète et tout ça.
Oui, c'est quand tu te lèves. C'est quand tu te lèves que tu le sens.
Mais quand je suis à table, puis il n'y a pas de surstimulation comme tu mentionnes, tu es en train d'écouter un bon film ou quelque chose, je suis capable de me dire, OK, ben je vais juste manger un petit morceau de crème glacée. Mais quand je suis le divan, puis il n'y a pas d'enfant, pas de blonde, je suis capable de passer au travers sans aucun problème.
C'est infini. On est ridicule à ce niveau-là. Fait que ça fait en sorte que ça fait partie du problème de prise de poids en société. Ce qu'on a fait pour cette étude-là, on a pris 400 participants qui mangeaient leur lunch sans rien faire d'autre, sans aucune distraction. On a pris un deuxième groupe qui regardait des vidéos en mangeant, puis le dernier qui jouait à Tetris. Fait qu'on les a distraits de deux façons différentes. Le détail important, le lunch en passant qu'on leur offrait, là, c'est un repas qu'eux avaient choisi, un de leurs mets préférés, une de leurs collations préférées, puis on leur servait une grosse, grosse, grosse portion. Les résultats sont très, très clairs. Plus la distraction est grande, plus le nombre de calories ingérées est élevé parce qu'on a besoin de plus de stimuli pour ressentir le même plaisir. Tu es tellement distrait au niveau des yeux par un écran ou un jeu ou peu importe que tu ne te rends pas compte de ce que tu ingères. Puis ça t'en prend plus pour avoir un sentiment de satisfaction, mettons, par rapport à ce que tu manges. Une autre preuve du lien entre les distractions puis les excès, c'est basé sur la mémoire. Il y a certaines de nos études qui ont montré qu'on se souvient moins bien du goût des aliments si quelque chose nous distrait. Ça a un impact sur la charge mentale aussi. Fait que dans les solutions, là, je vous fais ça rapide, là, mais on parle souvent de revenir à la base dans cet article-là. On dirait qu'on oublie, c'est super niaiseux. Là. On a reçu une nutritionniste cet été là, qui s'appelle Vanessa Daigle, puis elle nous a parlé de pleine conscience. Je trouvais que c'était très ésotérique là, comme principe, mais le but, c'est de prendre conscience de ce que tu ressens, mettons, quand tu t'arrives pour manger. C'est une technique psychologique qui est mise à l'avant depuis des dizaines d'années. Fait que tu prends conscience de ton environnement, de tes besoins, de ton ressenti. Puis ça fait en sorte que tu réalises ce que tu ingères, entre autres, qui peut mener finalement à éviter peut-être cette prise de poids-là. Tu sais, de te dire, je chopperai pas en mangeant mon lunch. Je vais manger mon lunch, puis après, j'irai regarder une série. Ça fait une grosse, grosse, grosse différence parce que si tu manges, bon, tu manges, si tu écoutes de la musique, tu dois écouter de la musique. Si tu marches, mais tu dois faire les choses une à la fois.
Mmh. C'est quoi son nom à cette nutritionniste-là?
Vanessa Daigle.
Facile à dire, là, Vanessa, mais devant un truc de
Pringles.
Rolo. Pringles, sel et vinaigre.
C'est tough!
Ouais.
C'est tough!
Puis quand tu fais le mélange sucré-salé,
ben, c'est encore meilleur. C'est ce que je fais le vendredi soir.
Quand tu prends un petit verre au travers de tout ça.
Avec des jujubes. Tu mets de tout. Jujubes salés, chocolat. Moi, il y a de tout dans mon snack. Je dois prendre 300 livres une soirée quand je m'y mets. Là. Mais il faut pratiquer la pleine conscience parce que tout ça, c'est niaiseux, mais ça amène à une charge mentale inconsciente.
On va aller au gym. Les écrans. Merci beaucoup, Mme Pinchot. Les trois accords hawaïennes sur les ondes de boulevard.
Avec Marceau et Audrey Pinchot.
Je ne pensais pas qu'on allait passer au travers, mais on est déjà rendu quoi mercredi, puis ils nous ont laissé en onde.
Oui, bien, à date, ça se passe bien, je pense. Oui, ils n'écoutent pas, c'est un des deux.
Et tout ça, c'est grâce à toi. 418-971-1021, si vous avez des choses à nous dire. Pascal CV qui est arrivé avec sa calotte rouge « Make America Great Again ».
Oui, mais du film 1995. Oui, mélange pas les affaires. Là.
C'est une casquette rouge de 1995.
Oui, le film québécois, tu vois, là, Ricardo Trogi.
J'aurais aimé la caster comme la Trumpiste de la station. Hey, 22 degrés sur Québec, fait super beau. Circulation. De quoi ça a l'air?
Bien, ça roule quand même bien, généralement. Il y a encore des problèmes sur Robert Bourassa, direction sud, entre chemin Sainte-Foy et boulevard Laurier, évidemment. Quoi que ce soit d'autre, c'est le 418-971-1021. C'est Pascal qui va vous en jaser dans les prochains instants.
Je te dis salut!
Hey, à demain, mon ami!
Bye-bye!
Salut, là!
Ah, bientôt le retour à l'école. Et si on vous a